Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV. C'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h, presque 41 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Le jeu vidéo, une industrie à plus de 100 milliards de dollars, un média de masse à part entière avec ses émetteurs, ses messages, ses choix éditoriaux, ses grammaires narratives. Tirons un fil, celui magnétique d'un jeu français à peine sorti, Detroit Become Human. Si, si, c'est un jeu français, je vous promets. Une saga futuriste et urbaine qui tire vers le cinéma comme jamais. C'est d'une beauté époustouflante, truffée d'acteurs et de dialogues, c'est complexe et c'est politique. Bref, ça se passe au crible de l'analyse, comme on le fait chaque semaine, figurez-vous, avec les séries.
L'Instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour David Cage.
Bonjour.
Voilà un pseudo, donc.
Oui, je suis d'origine italienne. Mon vrai nom est De Grutola. Je suis très fier de mes origines, mais ouais. C'est un nom un peu compliqué pour travailler avec des Anglais et des Américains.
Des Américains. Et David Cage, c'est un nom un peu banal, non, pour travailler avec des Anglais et des Américains.
Oui, mais il y a encore des gens qui se trompent dans mon nom, croyez-le ou pas.
Vous êtes donc le créateur de Detroit. Detroit, c'est donc la ville de Détroit, Become Human. Nouvel univers, c'est sorti sur PlayStation 4. Enfin, c'est là-dessus qu'on peut le jouer. C'est sorti la semaine dernière. Vous dirigez le studio parisien indépendant, donc studio français. Indépendant, je répète, Quantic Dream, voilà, qui vient de signer ses deux ans de travail.
C'est plus que ça, c'est 4 ans.
C'est 2 ans d'écriture, 4 ans.
C'est ça,
de travail,
en tout, de développement, donc, oui, pour ça. Plus de 200 personnes, toutes basées à Paris.
Voilà, voilà. On va plonger dans cet univers tous ensemble et on vous tient la main, même si vous ne jouez pas vous aux jeux vidéo. Vous allez voir, ça pose des questions absolument passionnantes et en tout cas à l'œil et à l'image, c'est très très beau. Salut à toi, Romain Nigita.
Bonjour, Sonia de Villers.
Alors, les mardis en série ont été décalés. Aller exceptionnellement au lundi aujourd'hui parce que demain, figurez-vous, on risque d'avoir à vous parler beaucoup d'audiovisuel public. Romain, générique ? Un petit générique. Sa série préférée. Événement pour les fans dont vous êtes, Romain, de la série culte Doctor Who, avec une diffusion intégrale marathon de cette série britannique de science-fiction. Ça a démarré la semaine dernière, ça reprend ce soir, ça va encore durer pendant 6 semaines et ça se passe sur la plateforme internet Twitch. C'est quoi Twitch, Romain ?
Alors Twitch, c'est une plateforme sur laquelle d'habitude on peut regarder et diffuser des parties de jeux vidéo et même les commenter en direct avec ses amis. Et d'ailleurs, lorsque Twitch diffuse des séries, c'est arrivé l'année dernière avec Power Rangers, on peut aussi commenter les épisodes en direct comme si c'était un jeu. On parle quand même là de 100 millions d'utilisateurs uniques par mois.
Voilà, quand je vous disais que le jeu vidéo est un média et même qu'il crée ses propres médias. On va en reparler avec David Cage. Première occasion de voir, en fait, légalement la totalité de Doctor Who. Parce qu'il n'y a pas que cette période la plus moderne qu'a diffusé France 4 depuis 2005.
Et oui, en effet, la première incarnation de la série a duré de 1963 à 1989. Ce sont 26 saisons quasiment jamais vues en France que Twitch diffuse. Seule une de ces saisons avait été bazardée en 87 dans le Club Dorothée. Et puis quelques épisodes iconiques avaient été diffusés sur France 4 en 2012 lors d'une nuit événement dont j'avais été l'un des concepteurs, je l'avoue. Mais à part cela, rien du tout.
Alors, si on ne connaît que la nouvelle version, on est quoi ? On est perdu quand on revoit le marathon intégral, le début ?
Absolument pas, Sonia, puisque c'est le même concept. Le docteur est un extraterrestre à forme humaine. Il voyage dans le temps et dans l'espace grâce à un vaisseau dont l'extérieur a la forme d'une cabine téléphonique bleue. Et grâce à ses acolytes, qui sont souvent des humains, il sauve des planètes entières et rencontre des personnages historiques.
I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey, the constellation of Casterbarus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all 6 billion people on the planet below. You got a problem with that?
No.
In that case, allons-y!
Et c'est donc un mélange explosif de science-fiction et d'humour anglais, un ton inimitable. Alors dans les années 60, la série était tournée dans les conditions du direct et en noir et blanc. C'était donc un peu cheap, mais si on se prend au jeu, les histoires sont passionnantes.
Bon voilà, et donc c'est une série totalement culte outre-Manche, d'autant que chaque génération a son docteur à elle.
C'est un peu comme James Bond, au fil des saisons, plusieurs acteurs se sont succédés dans le rôle du docteur. C'est un extraterrestre, donc lorsqu'il est mortellement blessé, il se régénère et il change de peau. Le stratagème permet de renouveler sa personnalité ainsi que le style des scénaristes. C'est aussi ça qui explique la longévité incroyable de cette série. Et le prochain acteur sera une actrice à la rentrée. C'est une femme qui jouera le docteur. C'est Jodie Whittaker qu'on a vue dans Broadchurch.
Et on va vraiment revoir tous les épisodes ?
Alors, pas tout à fait, puisque sur les 700 épisodes de la première époque, près d'une centaine ont totalement disparu. Ouais. Et oui, en effet, la série au départ était tournée en vidéo. Mmh. Or, les cassettes vidéo professionnelles des années 60 coûtaient extrêmement cher. Et pour la BBC, il s'agissait d'un programme de flux qui ne serait jamais rediffusé. La BBC a donc effacé les cassettes pour les réutiliser pour d'autres émissions. Et certains épisodes ont quand même été retrouvés grâce aux copies envoyées aux chaînes étrangères. Mais les autres manquent encore à l'appel.
Merci beaucoup Romain. Dr Who sur Twitch. Twitch, ça s'écrit T-W-I-T-C-H. Ne rigolez pas David Cage. Je vous assure que quand on n'a pas d'enfant de mon âge, on ne sait pas forcément. Voilà ce que c'est que Twitch. C'est sur Internet, c'est gratuit et c'est sur abonnement. Vous voulez qu'on dise un mot de Twitch justement ? Parce que c'est quand même un média qui a été racheté par Amazon, 800 millions de dollars. Hein, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que ce que Amazon a racheté le Washington Post.
C'est une plateforme qui est très intéressante, Twitch, puisque ça permet en fait de voir notamment des joueurs jouer en temps réel. Nous, sur Détroit, on a eu la surprise de voir 200 000 personnes regarder live en même temps une partie de Détroit. Et c'est assez intéressant parce que c'est à la fois un outil de promotion, de marketing, d'échange aussi.
De critique aussi.
De critique aussi. Mais c'est aussi intéressant de voir des gens jouer en temps réel à notre jeu, voir d'autres joueurs les commenter. Mm. Alors voilà, alors c'est toujours une bénédiction, une malédiction parce qu'on se dit peut-être qu'on perd des ventes aussi, mais en même temps, on se dit que ça fait la promotion du jeu et ça fait parler, ça montre en tout cas le travail qu'on a fait.
Allez, Detroit Become Real, on y plonge, générique.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Become Human, et non pas Become Real, mais vous allez voir pourquoi j'ai confondu avec le nom d'une série, parce que évidemment, quand on commence à parler d'humanoïdes, il y a beaucoup de références qui se télescopent. Je tiens d'abord à remercier Redouane Tella, qui est donc assistant de production de cette émission, qui a donc téléchargé votre jeu, ça lui a pris 40 heures et qui a passé le week-end entier sur sa PlayStation. Il m'a béni. Alors donc, je disais générique. Alors c'est un homme au volant de sa voiture qui traverse la ville et qui s'en éloigne. Nous, ça nous en a rappelé deux, de très très beaux génériques. Celui des Sopranos pour la conduite à travers la ville et celui peut-être d'House of Cards sur cette façon de montrer une ville américaine de manière un peu crépusculaire, un peu raide, pas forcément très esthétique, avec ses accélérations.
Bah merci pour les références, je prends. En fait, l'idée, donc Détroit en deux mots, c'est l'histoire une histoire qui se passe dans un futur proche, dans 20 ans. C'est notre monde dans 20 ans qu'on a essayé d'imaginer avec des androïdes qui nous ressemblent en tout point, mais qu'on traite comme des objets, comme des esclaves. Ce sont un peu une version évoluée de nos téléphones mobiles. Et en fait, on va suivre la vie de trois androïdes au moment où quelque part ils vont s'éveiller à la conscience, découvrir des émotions et évidemment avoir envie.
Alors on va vous les présenter, libre. On va vous faire écouter le trailer du jeu, comme ça vous allez même entendre leur voix en version française.
Absolument. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses.
Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout finit.
Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle.
Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave.
Merci, Marcus.
Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre.
Quand je vous dis que ce type de scénario est très référencé, nourri d'une grande culture cinématographique et télévisée, évidemment, c'est une histoire assez classique. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous prenez ces personnages au moment où ils vont s'affranchir et en même temps, vous n'en faites pas une conquête politique, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir sur la ville, parce que ça c'est aussi un scénario de science-fiction où les machines et les robots prennent le pouvoir sur les humains.
Oui, il y a eu beaucoup dans la littérature ou au cinéma d'histoires sur des androïdes qui se rebellent, mais en général on en fait les méchants,
c'est ça.
Qui essayent de se battre et les humains doivent les détruire pour libérer la Terre. Nous on a voulu prendre quelque part le point de vue inverse et prendre le parti des androïdes et se dire peut-être que l'humanité est en train de décliner, peut-être qu'elle est en train de devenir dépendante à la technologie, peut-être peut-être qu'on est en train de devenir plus égoïste. Et peut-être qu'il y a cette nouvelle espèce intelligente qui découvre le monde avec des yeux nouveaux et qui a juste envie d'être libre.
Et pour qu'on comprenne bien, le joueur que je suis moi devant ma PlayStation va incarner tour à tour
ces trois personnages
dont on parle. Donc finalement, c'est une forme de quête initiatique. Et là où elle redevient politique, c'est pas une forme de rébellion et de prise de pouvoir, c'est aussi une lutte pour les droits civiques.
C'est avant tout une lutte pour les droits civiques. C'est un jeu assez inhabituel dans ses thèmes et dans son expérience.
C'est ça.
D'abord, dans son expérience de jeu, c'est une histoire dont vous êtes le héros. Mmh. Donc tout le parti pris de Détroit, c'est de mettre le joueur dans la peau de ses personnages et de le laisser quelque part prendre ses décisions et modifier. L'histoire va se modifier en fonction de ses choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très significatif et très important.
Alors, ça, il faut qu'on explique parce que à la fin de chaque chapitre, il y a une forme d'arborescence qui apparaît à l'écran. Et en fait, il y a une forme de sommaire des choix qui ont été faits précédemment et des choix qui s'offrent à vous. J'essaye de simplifier, de rendre ça compréhensible. Et on voit bien donc comment chaque joueur vivra une histoire différente et aboutira à une issue différente. C'est 4 à 5 000 pages de scénario, me disiez-vous, avant de commencer l'émission.
C'est ça, c'est 2 ans d'écriture, ce qui est assez significatif. C'est 4 à 5 000 pages de scénario, comme vous le disiez. Un film, c'est une centaine de pages en général. Donc il y a vraiment... En fait, on ne raconte pas une histoire, on raconte tout le champ des possibles. Mm-hmm. Tout ce qui peut se produire dans cette histoire pour que le joueur, à travers ses choix, puisse raconter sa propre histoire. Et donc, à travers ses arborescences, il va voir non seulement le chemin qu'il a parcouru, mais il va voir toutes les branches de l'histoire qu'il n'a pas vues. Et il va pouvoir voir les pourcentages de joueurs qui ont fait tel choix ou tel choix. Donc, se comparer quelque part au choix des autres.
Mais parce que vous vouliez en faire une expérience assez approfondie de la conscience, de ce que c'est que de choisir, de ce que c'est que d'agir, de ce que c'est que de prendre en main son destin, finalement.
Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec notre média par rapport au cinéma où on est spectateur et où on peut que regarder ce qui se passe. Là, on peut en devenir l'acteur et le co-scénariste, le co-réalisateur. Donc, c'est vraiment une histoire qu'on raconte avec le joueur. C'est ses choix qui vont porter la narration. Et ce qui nous intéressait, c'est un jeu qui est aussi inhabituel par ses thèmes, puisqu'on on aborde des thèmes qui sont très rarement abordés dans le jeu vidéo. On parle de ségrégation, on parle des droits civiques, on parle de la différence, du droit à la différence.
D'où Détroit ? D'où le choix de Détroit ou pas ? Parce qu'il fallait l'ancrer dans une ville américaine qui a aussi une histoire de lutte pour les droits civiques, de révolte de la communauté afro-américaine et tout ça ?
Absolument.
Chômage, de pauvreté, d'inégalité sociale.
Ça nous semblait important d'ancrer cette histoire dans le réel. Donc on n'a pas voulu la porter trop loin dans le futur. On est dans 20 ans, c'est un monde qu'on peut encore imaginer. Et on a voulu lui donner un lieu. Et quel meilleur lieu que Détroit, qui est une ville qui a une histoire absolument extraordinaire aux États-Unis, qui a été un géant automobile, qui était une des premières villes qui a été en banqueroute, en fait, littéralement, avec plus de 18 milliards de dettes, et qui aujourd'hui essaye de renaître de ses cendres, où il y a vraiment une industrie qui essaye de revenir, on essaye d'attirer des entreprises, et on s'est dit que si l'industrie Android devait apparaître quelque part dans le monde, ça serait peut-être à Détroit aujourd'hui. Et il y a tout ce passé que vous évoquiez aussi sur les civil rights. Martin Luther King a donné la première version de son
fameux discours. C'est un jeu qui est dans le futur et très chargé d'histoire.
Oui.
Je vous fais écouter un extrait de dialogue quand je vous dis que ça se regarde comme une série.
C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue.
Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme.
Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile.
Voilà, dialogue entre l'un des humanoïdes et l'être humain pour lequel il est.
Je fais juste une petite parenthèse, le personnage qu'on vient d'entendre est joué à l'écran par Lance Henriksen, qui est un des androïdes les plus célèbres de l'histoire du cinéma, puisque c'était Bishop dans Alien. Et on a eu l'immense bonheur de collaborer avec lui. Et voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très très grosse distribution, il y a presque 300 personnes qui jouent dans ce jeu. Vous avez aussi une star de la télévision, Jesse Williams, qui est le héros de Grey's Anatomy, série télé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que m'a expliqué Redouane Tella, qui a testé le jeu pour moi et qui connaît beaucoup mieux cet univers-là que moi, c'est que tout ce qu'on appelle les cinématiques, c'est-à-dire ces séquences qui sont des séquences comme on regarderait des séquences de cinéma, des séquences de séries, qui sont des séquences dans lesquelles on est relativement passif, où on n'interagit plus, on n'est plus dans l'action, sont beaucoup plus nombreuses dans ce jeu que dans beaucoup d'autres.
Alors c'est un petit peu différent. C'est vraiment un concept dans, dans beaucoup de jeux, on est vraiment basé sur de l'action et notamment de l'action souvent violente. Et donc l'idée est vraiment de taper, de tirer, enfin voilà, de faire quelque chose de violent. Nous on est dans un jeu dans lequel on interagit avec une histoire. Et donc on est vraiment en contrôle tout le temps du personnage, mais on ne tire pas, on ne saute pas, on ne conduit pas des voitures. En fait, on va faire des choix. Et ces choix, on va faire des choix dans les dialogues, on va interagir avec son environnement, on va développer des relations avec les autres personnages. Et ces choix-là vont nous amener à raconter notre propre histoire. Donc cette histoire n'est pas racontée à travers, de manière passive, on n'est pas en train de regarder. On est actif tout le temps. On est dans la peau du héros du film d'une certaine manière et on décide ce qu'on veut qu'il fasse et ses actions vont avoir des conséquences.
Alors j'aimerais qu'on parle justement de votre utilisation des acteurs parce que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Il y a eu un précédent jeu vidéo où vous aviez fait parler de vous parce que vous aviez utilisé Ellen Page, vous aviez utilisé l'immense William Dafoe. Donc à quoi vous servent les acteurs justement dans ce travail du jeu vidéo que vous portez très 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 manifestement vers la série ou vers le cinéma?
Alors pour nous, les acteurs sont un élément absolument essentiel. Souvent, ils sont un peu accessoires dans les jeux vidéo quand l'action est principalement violente. Bon, les acteurs, c'est pas forcément le cœur de l'expérience. Chez nous, c'est important parce qu'on a besoin de véhiculer de l'émotion, du sens. On a besoin que le joueur s'attache au personnage. Et voilà, on a besoin de ressentir quelque chose pour eux. Et donc, c'est aussi important pour nous que dans un film ou dans une série télé. Alors, on cherche pas forcément des célébrités, même si on a eu la chance de travailler avec Ellen Page, William Dafoe, David Bowie aussi. C'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche avant tout des gens qui respectent notre média, qui ont envie de venir et de donner leur talent.
Il y a encore de la méfiance ?
Il y a de la méfiance ou parfois il y a de l'incompréhension. Il y a encore des gens qui viennent en se disant ça doit pas être bien compliqué de faire un jeu vidéo. Et c'est vrai, quand ils arrivent chez nous, c'est un petit peu, ils se rendent compte que c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de textes à apprendre. On a un niveau d'exigence qui est assez élevé aussi sur leur performance. Et on leur dit dès le départ, attention, si vous venez, c'est pour nous donner la même qualité d'interprétation que ce que vous feriez sur un plateau de film ou de série télé.
30 millions d'euros de budget.
Le budget a pas été annoncé, mais c'est, les jeux de ce type, c'est plusieurs dizaines de millions.
Voilà, d'accord. un dernier mot sur la représentation de la ville, parce que je l'ai dit, c'est une saga urbaine. Alors, vous avez dit toutes les références de Detroit, en anglais. C'est absolument passionnant de voir comment les villes servent de colonne vertébrale et de terrain de jeu aux jeux vidéo en général. C'est absolument passionnant de voir comment GTA a transfiguré toutes les grandes villes américaines, New York, Los Angeles, Miami, etc., en les fantasmant d'une certaine manière. Passionnant de voir comment Assassin's Creed a fantasmé des villes historiques, Damas, Florence, etc. et tout. Comment vous vouliez vous situer par rapport à la ville de Détroit, justement ?
Nous, on voulait avant tout créer une ville de Détroit dans 20 ans qui soit crédible. C'est-à-dire, on ne voulait pas la fantasmer. On voulait vraiment partir de la ville telle qu'elle est aujourd'hui et s'imaginer comment elle allait évoluer en imaginant qu'il y ait cette industrie Android qui reviendrait dans la ville et qui ramènerait une certaine santé économique. On a voulu aussi imaginer notre monde dans l'évolution technologique de ce monde, savoir quelles sont les nouvelles technologies qui vont arriver d'ici à 20 ans. Et là aussi, on a essayé d'être documenté, d'être réaliste dans notre approche. On n'a pas inventé des choses incroyables. On est parti de ce qui existe aujourd'hui, au moins à l'état de prototype ou dans des laboratoires, et on a essayé d'imaginer ça. Et surtout, l'impact de la technologie sur nos sociétés, et on a essayé vraiment de pousser cet aspect-là pour proposer une image crédible de notre monde dans 20 ans.
Merci beaucoup,
merci
David Cage. Donc, Detroit Become Human, c'est sur PlayStation. Et voilà, nous on a commencé par essayer, je m'y mets petit à petit. Merci d'être venu dans l'Instant
merci
M.
Merci de m'avoir invité.
C'est la fin de l'émission. Bonjour Dorothée, Barbara.
Bonjour Sonia Devillard.
Voilà, qui sera au micro de Grand Bien Vous Fasse toute la semaine à la place d'Ali Rebé. Au menu aujourd'hui.
Savez-vous que quand on entend il faut manger 5 fruits et légumes par jour, beaucoup sont ceux qui pensent si je mange les fruits, je peux manger des frites ensuite. C'est ce qui s'appelle un effet pervers de la prévention santé. Il y a énormément d'exemples comme ça. On en parle avec vos questions au 01 45 24 7000.